donc Sébastien et moi, on a donc la lourde tâche de quasiment conclure la séance. Donc pas mal de choses ont été dites d'un point de vue théorique. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cette mission, c'était également de profiter du déplacement pour visiter deux universités. Et on tient à remercier Yves Belboin pour le contact qui a été donné. Donc l'université de UCLA, Los Angeles, et UCSD pour San Diego, sachant que l'intérêt c'était également de faire cette mission à plusieurs, avec des collègues UNR, AMU et d'autres universités. Et on voit la richesse de leur institution. Donc on va redire des choses qui ont déjà été dites avec l'éclairage californien. Voilà donc. UCSD et UCLA, ils sont membres donc des 10 campus qui forment UC System, hein, avec donc un système d'université très autonome. Il nous a semblé qu'il y avait faiblement de mutualisation entre les universités. Du point de vue déjà de l'étudiant, bon, ben, c'est le système de la concurrence entre les universités, avec peu de parcours de formation interuniversitaire. Et voilà. On peut dire la même chose du côté des ERP, je crois que ça a été dit, c'est-à-dire que là, sur la mutualisation en termes d'ERP, on n'a rien vu dans le cadre de nos visites, et je crois que c'est confirmé par les collègues.
Tout à
Voilà,
fait.
donc c'est la première chose qu'on
Mais
a
qu'il y
remarquée.
a quand même une forte volonté d'aller vers dans ce sens-là.
Tout à fait.
Alors, vous voyez qu'on n'est pas non plus tout à fait en retard chez nous.
Voilà, donc pour UCLA particulièrement, donc cette université qui est très proche des universités scientifiques, bon, avec aussi des composantes de sciences humaines importantes, mais une université de la taille de l'université française, hein, entre 8 30 000 étudiants, 3 000 faculty members et chercheurs, et puis des moyens dédiés aux technologies de l'information et de la communication. Quelque peu différent, effectivement, ça a déjà été noté, c'est-à-dire des volumes de financement qui ne sont pas les mêmes et des moyens de financement qui ne sont pas les mêmes.
Tout à fait. Bien, donc en termes de catalogue de services au niveau des SI, je dirais que le système, je dirais, à UCLA et en France est assez similaire. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'infrastructures, on s'occupe de services, je dirais, d'appui aux enseignants, d'appui aux étudiants, également, je dirais, de programmation, d'applications métiers. D'accord? Donc rien vraiment d'extraordinaire de part et d'autre. La différence, et comme on l'a dit dans une présentation précédente, c'est qu'on ne se pose plus la question est-ce qu'on va aller vers du cloud ou pas. Non, c'est on y va et on ne se pose plus du tout ce genre de questions comme chez nous actuellement. Concernant UCLA, on peut citer par exemple l'utilisation du PGI Banner, qui est utilisé, je dirais, sur quelques établissements en France, mais pas spécialement majoritairement. Je ne citerai pas d'autres. Également, un service qui est très développé aux États-Unis est le système un peu la Dropbox. Donc la possibilité d'avoir des espaces, je dirais, virtualisés, espaces de stockage virtualisés, qui est notamment donc développé également à UCLA. Et par exemple, l'utilisation du CMS Drupal. En termes d'organisation du SI, deux équipes. Alors, par contre, je vais me permettre de lire le papier parce que je ne suis pas spécialement habitué aux chiffres de ce que l'on a en France et de ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Voilà, donc par exemple, deux équipes. Donc, une partie système administratif avec la gestion j'irai des infrastructures d'une manière générale, c'est 65 personnes. 65 personnes, jusque-là, les chiffres pour une belle université, c'est déjà pas mal. En France, je parle. L'autre côté, il y a toute la partie enseignement et recherche. Enseignement et recherche, là, c'est 350 personnes. 350 personnes pour quand même 30 000 étudiants, si je ne m'abuse de ce que tu avais dit tout à l'heure, et un peu plus de 3 000 enseignants-chercheurs. C'est également 150 personnes directement dans les composantes. Vous voyez que là, les chiffres commencent à augmenter. Et le meilleur pour la fin, naturellement, sinon c'est pas rigolo, un budget de 180 millions de dollars par an. Alors certes, c'est un budget chargé. Donc ça veut dire qu'il y a 80%, j'irais, des salaires des employés dans ce budget. Mais même si on fait un calcul, ça me plairait assez d'avoir ça chez moi.
Pour le même nombre d'étudiants.
Pour le même nombre d'étudiants.
Également, ce qu'on a pu remarquer lors de nos deux visites, bon, là, toujours sur UCLS, ça fait écho à ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, Nicolas Babu, c'est l'évolution de la fonction SI et du rôle joué par le DSI. Et là, on avait véritablement une illustration des documents du Gartner Group in vivo à UCLA, avec effectivement l'évolution de quelqu'un qui est donc plutôt en service provider, directeur technique des infrastructures, et une évolution vers ce qu'ils appellent le service broker, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du courtage en service, évidemment avec des services qui sont en cloud public ou cloud privé, et avec des solutions d'urbanisation hybride, selon les populations. C'est ce qu'on disait juste à l'instant, entre un service du type Gmail pour les étudiants et des solutions plus entreprise, entre guillemets, pour ne pas citer de marque, sur la partie personnelle. Donc ça, c'était effectivement... Alors, on a intitulé ça « cost effective », le « cost effectiveness analysis » aux États-Unis, c'est quasi une religion, c'est-à-dire c'est finalement, plutôt que de pousser les services, uniquement des services internes, c'est de faire son marché de façon très très ouverte pour la DSI, auprès d'offres privées, on a cité Amazon, mais bien d'autres, et qui rentrent complètement en concurrence avec les services qui sont offerts et hébergés directement par la DSI. Voilà, donc la DSI devient broker de services et se met lui-même en concurrence. Cette concurrence, elle va même au-delà.
Bien au-delà.
Bien au-delà, puisque donc à l'intérieur de l'université, les composantes qui sont normalement les final users de cette DSI a le droit, est tout à fait autorisé, voire encouragé, toujours au nom de cette politique de cost effective, d'aller voir sur le marché ouvert pour faire son marché sur des nouveaux services, selon la maturité des services et le coût.
Et donc de mettre directement en concurrence, naturellement, le service IT local.
Voilà. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire sur UCLA. Après, il y a des données peut-être plus techniques que tu peux donner, Sébastien.
Tout à fait. Je peux revenir sur quelques chiffres, parce que vous avez vu, j'aime bien les chiffres. Donc, typiquement, le stockage virtuel que j'ai abordé rapidement tout à l'heure, c'est un espace qui est de 1,5 pétaoctets. En gros, ce qu'ils ont prévu par étudiant, c'est à peu près 50 gigaoctets de stockage. Voilà,
ça fait beaucoup.
Ce qui peut... ce qui, moi, laisse rêveur pour le moment. Mais je sais très bien qu'avec les projets de cloud et différents projets qu'on a au niveau national, ça va pouvoir s'améliorer. Voilà. Il y a la mise en place d'un serveur de calcul pour la recherche. Donc, serveur massivement parallèle, où là aussi, certains chiffres me laissent rêveur, typiquement 12 000 cœurs. Bon, joli petit cluster. 129 teraflops, je dirais, de possibilités en termes de puissance. Pouvant monter... 129, c'est la base. C'est qu'on peut monter sur des pics spécifiques à 400 teraflops. Voilà. Donc, ça laisse également... Oui, je suis rêveur.
Merci. Voilà. Donc, après ces chiffres... Bon, la stratégie sur les MOOC de UCLA, Yves a abordé les choses de façon très complète. Donc, on n'a pas grand-chose à ajouter. Simplement, effectivement, que bon, UCLA, qui n'en est pas au prémisme du e-learning, qui a évidemment un historique important sur ce qu'est la fourniture de cours en ligne, etc., etc., a une position très attentiste sur les MOOC. Ça nous a été confirmé par le responsable, donc le directeur pédagogie numérique, on va dire, pour faire un peu le parallèle à ce qui existe en France. En l'absence de visibilité du modèle économique pour l'université. Et également, ce que signalait Yves, c'est de toute façon un retour des étudiants peu favorable au 100% e-learning à distance, avec effectivement, vu le campus, un attachement fort au campus et à la socialisation au sein même de ce très beau campus de UCLA. On a fait, après l'issue de même type d'études, on revient avec les mêmes chiffres, 80% de nos étudiants ne sont pas du tout prêts à basculer sur un enseignement entièrement à distance, par crainte de la désocialisation, même si les services numériques peuvent ajouter un peu de socialisation, mais le face-à-face reste important, et puis également par la crainte de voir peut-être une offre un peu low-cost en formation. On a fini cette visite.
Je vais juste apporter un petit élément. C'est par rapport au BYUD que nous avons, qui a été évoqué tout à l'heure par John. Il y a un important développement en cours, à UCLA, sur toute la partie mobilité. Mobilité sur laquelle ils ont décidé de s'appuyer sur un framework, Homage, qui leur permet de développer, différents services, que ce soit sur Android, que ce soit également sous iOS pour d'autres marques.
Alors, également, donc, nous avons fini cette visite par un petit tour dans deux bibliothèques, la bibliothèque Undergraduate donc, et la bibliothèque Research and Graduate, avec donc trois choses qui nous ont évidemment interpellés, qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui étaient bien installées. C'est d'ailleurs ça, ce n'est pas forcément le côté nouveau qui nous interpelle, c'est le côté bien installé. On sent que c'est là depuis un certain temps. Donc c'est des choses que John a abordées tout à l'heure dans sa présentation sur les learning spaces et tout ce qui est espace informel d'apprentissage. C'est le fait, effectivement, les images que vous avez vues, le fait qu'on travaille en groupe projet, aussi bien dans l'undergraduate, c'est-à-dire au niveau licence, qu'au niveau master et doctorate, et avec des espaces qui fonctionnent. Ce n'est pas des espaces vides, ce n'est pas le stand de Steelcase sans personne, ce sont des vrais étudiants qui sont là avec leurs ordinateurs et qui travaillent, et donc des espaces du type Learning Center qui fonctionnent très bien. L'autre chose, c'est l'amplitude horaire d'ouverture de ce qu'on appelle le service public en bibliothèque universitaire, puisque c'est du 24 heures sur 24, avec, c'est le responsable qui nous confiait ça, un gros pic de fréquentation entre 11h de l'après-midi et 3h du matin. Et c'est du type urgence hospitalière, quoi.
C'est un peu ça.
Parce que c'était la blague qui nous avait été faite. Effectivement, donc un service public avec des latitudes d'ouverture très impressionnantes.
Et je pense également qu'on peut citer en dernier point la bibliothèque sans ouvrage dans les rayonnages, qui nous avait un peu surpris. Puisque c'est vrai que ils ont numérisé énormément de documents. Et de voir, un espace bibliothécaire, en tout cas affiché tel quel, sans aucun livre, ça nous a un peu surpris.
Il y a encore une étagère vide.
Tout à fait, il y a des étagères vides. Je pense que c'est encore plus surprenant.
C'était d'autant plus surprenant vu l'ancienneté du bâtiment, le côté historique du bâtiment. Ouais. Donc UCSD San Diego, université à peu près de taille identique que UCLA, avec un budget un peu plus petit dans le UC System, mais c'est pas mal, on est à 3,6 milliards de dollars annuels, avec un excédent, parce qu'on peut avoir de l'excédent, un excédent financier après dépréciation de 200 millions de dollars. Voilà, et une subvention, donc c'est une université publique, du système californien. Pour la partie subvention de l'État de Californie, vous savez, ce n'est pas le niveau fédéral, mais c'est bien le niveau État de Californie, de 7%, 11% de la couverture des revenus par les frais d'inscription des étudiants. Le reste, c'est financé par les activités de l'hôpital. Il y a un très, très grand hôpital universitaire. C'est 30% des revenus. Et puis tout ce qui est programme fédéraux et privés. Et puis également le rôle des donateurs privés qui est important. Je crois que c'est toi Thierry qui en parlais. Le fait que le côté alumni rapporte aussi des revenus à l'université. On a été accueillis dans un très beau bâtiment qui s'appelle le Qualcomm Institute, qui avait été rebaptisé. Avant, c'était le California Institute for Telecommunication and Information Technology. Et il a été rebaptisé dernièrement du nom du donateur, qui est la société Qualcomm, qui donc opère dans tout ce qui est réseau sans fil. Voilà. Donc, c'est emblématique de ce qu'est l'Université de San Diego en termes de financement et d'université publique californienne. Sur cette structure donc, du Qualcomm Institute, simplement pour vous dire, c'était intéressant parce qu'on était dans une sorte de d'incubateur où on a finalement, d'une façon très très opérationnelle, le test entre chercheurs et entreprises de technologies émergentes, aussi bien dans les lasers que dans les IT, que dans l'espace. Et pour finir sur cet aspect financier du CSD, le campus accueille 650 startups. Donc c'est aussi un lien très fort avec l'industrie. Oui, je continue sur les MOOC. Yves dont nous a fait un exposé complet. Je reviens juste sur un des éléments, c'est-à-dire que là, on a deux universités dans un même système et deux stratégies différentes en termes de MOOC. UCLA attentiste, UCSD au contraire, à fond dans les MOOC, à fond dans le credo des MOOC. Là, effectivement, le doyen, donc sciences humaines, hein, qui est responsable de tout ce qui est, disons, de ces aspects liés à la pédagogie et au numérique, nous a présenté les MOOC dans un discours très, très pro-MOOC, comme étant une réponse à la fois au problème donc, de la dette publique et dette privée américaine, hein, qui flambe, et donc comme la possibilité d'utiliser le numérique comme un levier, hein, pour faire baisser les coûts de formation, sachant qu'il y a 500 000 potentiels étudiants en Californie et qu'il faut répondre à ce besoin-là. Également, disons, comme possibilité de personnaliser la formation, bon, un certain nombre de, disons, d'éléments qui sont donnés quand on est effectivement... quand on parle des MOOC, c'est-à-dire la possibilité de prendre en considération des publics hétérogènes. Évidemment, là, dans la population, on était à 30 km à la frontière mexicaine. Bon, la Californie, première langue, c'est l'espagnol. Donc, c'était d'amener vers l'enseignement supérieur des populations qui, aujourd'hui, n'y ont pas accès pour des raisons financières. Voilà, donc... ce qui était ajouté également par cette personne, donc, c'était le fait que l'investissement dans les MOOC, c'est un investissement aussi qui peut se pérenniser, c'est-à-dire on est dans des dispositifs hybrides de formation, et ce qui est produit dans le cadre d'un MOOC peut être investi, et c'est à 80% le cas, par les auteurs dans de la formation hybride du genre ce qu'on appelle le digital learning, c'est-à-dire bon, ben, l'accompagnement présentiel par de l'enrichi.
J'enchaîne ? Oui. Merci, monsieur. Donc, en termes d'IT, UCSI était précurseur depuis très très longtemps sur, je dirais, tout son domaine d'activité. Il se fait rattraper aujourd'hui, naturellement, par toute la partie mobilité, mais remet l'accent, je dirais, de manière assez appuyée pour garder son leadership. Par exemple, en termes d'ERP, donc ils avaient un ERP maison. ERP maison, qu'ils viennent d'abandonner pour également passer sur le PGI Banner, mais je dirais avec la toute dernière version en Java et tous les modules qui vont bien. Je vais vous parler un peu du réseau, un peu plus précisément, puisqu'il y a quand même quelques particularités. Typiquement, le campus de UCSD, c'est un peu plus de 4 miles. Donc vous voyez, c'est quand même, je dirais, un campus qui est relativement grand. Une interconnexion réseau à 100 gigas. Donc aujourd'hui, bon, également, je dirais, tout le monde n'a pas ce type d'interconnexion. Ce sont à peu près 40 gigas de ressources et de bandes passantes vers le centre de recherche, pardon, avec une interconnexion de chacun de ces bâtiments à 10 gigas. Donc en effet, ils ont des besoins en IT, ils ont des besoins en termes d'usage et d'évolution de ces usages, mais ils y mettent, j'irais, l'infrastructure qui va bien. Pour information, c'est environ 1400 commutateurs à gérer, ne serait-ce que pour ce campus qui devient quand même une véritable entreprise. L'accent, comme on l'avait dit, mis sur le nomadisme et sur la mobilité, eh bien, c'est à peu près 4500 bornes de Wi-Fi installées. Donc, ce qui représente également un parc et une couverture quand même assez impressionnante. Bon, je ne parlerai pas spécialement d'infrastructure téléphonie IP, puisque c'est naturel, bien qu'ils aient gardé une partie en analogie également, ils ne sont pas full IP. Par contre, il faut quand même savoir qu'en termes de réseau, chaque composante paye ses droits d'accès, ce que l'on n'a pas spécialement, je dirais également, dans nos campus au niveau français. Donc, un service de cloud, de stockage pour la recherche également. Alors, pour les raisons, je dirais, un peu classiques, hein, de provisionner suffisamment d'espace, de pouvoir stocker les données des chercheurs, de pouvoir trouver des éléments, puisqu'ils ont opéré une indexation quand même assez importante, pouvoir comparer, publier et partager. Deux types de cloud, par contre, à noter, puisqu'il y a une partie cloud publique, une partie cloud privée. Cloud public qui est à peu près à $400 le terabyte par an. Voilà, je pense qu'en termes de données...
Voilà, donc en conclusion de ces deux visites, hein, qui étaient vraiment en écho des séances et du cause, on n'est pas amené à faire une comparaison entre deux modèles qui ne sont pas comparables en termes de financement, de volume, mais quand même. pourtant quelques rapprochements du type, bon, bah, on a vu hein, des catalogues de services qui sont quand même identiques, hein, avec dans des volumes qui sont également identiques en nombre d'étudiants. Évidemment, il faut compter les labos aussi. On était voir deux universités qui sont des universités recherche. Enfin, on est également université recherche et des moyens qui sont dédiés à ces laboratoires. Mais quand même un ratio, donc c'est, je voudrais revenir là-dessus, un ratio, donc nombre de personnel support, nombre d'étudiants, qui est très très différent. Hein. Une évolution des services, mais ça je ne vais pas revenir, ça a été dit hein, par le cloud, cloud public et cloud privé, et cette évolution des DSI, hein, qui est vers le courtage de services, ça semble être quelque chose à... Bah effectivement, bon, Nicolas l'a dit dans sa présentation, une évolution des métiers qu'il faut prendre en compte dans la stratégie de l'établissement. Et je rajouterai, ce n'est pas sur la diapositive, mais la mixité des solutions. Hein, ce phénomène de courtage amène bon, un plus qui est le fait qu'on va chercher dans les systèmes hybrides et on va chercher le best of breed de chacun, mais... certainement un problème aussi de faire converger ces services dans une organisation qui est viable pour l'université. Ça, là-dessus, on n'a pas eu trop d'informations, je dirais, de leur côté. Mais c'est évident que c'est une problématique importante. Donc, ce qui ressort, c'est qu'évidemment, on est aux États-Unis, il y a une croyance forte dans le numérique comme la solution et comme un levier de développement stratégique hein, pour passer dans des volumes qu'on n'arrive pas à servir avec des technologies non numériques. Et l'autre chose, c'est qu'on est arrivé en plein shutdown, hein, c'est-à-dire avec un problème d'aide publique, etc. Et les acteurs qu'on a rencontrés, qui étaient d'un niveau doyen, directeur de service, c'est pas simplement parce qu'ils voulaient faire bonne figure, mais on n'a aucun moment, et du coup, ou à UCLA et UCSD, on a entendu qu'il y avait réduction de budget, que c'était la cata, etc. Donc on n'a pas vu la dépense IT comme étant une variable d'ajustement budgétaire.
Tout à fait.
Mais plutôt cost effectif, c'est-à-dire je place mes sous là où j'assure une bonne qualité de service à mes usagers.